Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les autoroutes vache à lait des concessionnaires. Nouvelle augmentation au péage aujourd'hui, pas loin de 2%, hausse métronomique depuis la privatisation des autoroutes. Valence, épicentre de la mobilisation des gilets jaunes demain. La ville, en tout cas, va se calfeutrer par peur des débordements. À 8h20, votre invité Nicolas nous livrera son analyse de la situation.
Oui, il s'agit de Pascal Perrineau. Il est garant du grand débat national et de son indépendance. Nous le recevons dans le grand entretien de la matinale 01 45 24 7000 pour vos questions.
Dans ce journal, également les condamnés du 36, 7 ans de prison pour viol. Les deux policiers du Quai des Orfèvres vont faire appel. Leur avocat dénonce une erreur judiciaire. Notre envoyé spécial au Venezuela avec le numéro 2 du régime Maduro. Le pass culture, 500 euros distribués à 10 000 jeunes. La promesse d'Emmanuel Macron entre en phase de test. Du rugby avec le début ce soir du tournoi des 6 nations. Et Michel Legrand, immortel dans les écoles de comédie musicale. Ses obsèques seront célébrées aujourd'hui.
France Inter.
Leurs péages sont devenus des cibles occupées par les gilets jaunes, parfois vandalisées, même incendiées comme à Narbonne. Les sociétés d'autoroutes et leurs tarifs dans le collimateur, ils augmentent d'1,8% en moyenne à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça chaque année depuis la privatisation des concessions en 2006. Sans remonter jusque-là, prendre l'autoroute coûte 10% plus cher qu'il y a 7 ans. Alors en présentant leurs offres hier, Vinci, la SANEF et les autres ont simplement consenti des ristournes pour les gros rouleurs qui font leurs calculs, à l'image de Wilfried, joint par Hélène Philly dans sa voiture, sur le trajet entre chez lui et son travail.
Wilfried fait le trajet tous les jours entre Dieppe et Le Havre, près de 200 km aller-retour pour aller au travail, et un gros budget péage.
En moyenne, ça doit être aux alentours des 140-150 euros.
Et au prix des péages, chaque mois, il faut rajouter le carburant.
C'est à peu près, en fonction évidemment du prix du litre de gazole, parce que je roule au gazole, en moyenne, c'est à peu près dans les 380 euros, 400 euros de carburant juste pour moi.
Wilfried a déjà un abonnement. Les péages sont gratuits pour lui au-delà de 25 trajets par mois. Alors il se demande quelle offre est la plus intéressante, la sienne ou celle proposée aujourd'hui par toutes les sociétés d'autoroutes, 30% de réduction sur l'ensemble des trajets à partir de 10 allers-retours. Finalement, l'idéal, ce serait...
Pour moi, ce serait de cumuler les deux offres, effectivement.
Quelle offre choisir ? La question se posera sans doute pour beaucoup d'usagers réguliers de la route qui ont déjà des abonnements et des tarifs réduits. Tout cela laisse donc Wilfried quelque peu dubitatif.
Une portion d'autoroute, celle que je prends en l'occurrence, est quand même relativement chère quand même. On ne va pas non plus se plaindre parce que c'est quand même un geste dans tous les cas. Mais je pense qu'il aurait dû être un peu plus fort.
Un geste qui, selon le gouvernement, devrait concerner 1 million d'automobilistes.
Hélène Philly, ce qu'il en coûte de se déplacer, question originelle du mouvement des Gilets jaunes. On en est loin désormais, à la veille d'un 12e Saint-Denis de mobilisation. À Paris, le défilé rendra hommage aux blessés des précédentes manifestations, des gueules cassées en tête de cortège. Et la ville de Valence redoute des débordements, 6 à 10 000 manifestants attendus dans la préfecture de la Drôme et potentiellement un millier de casseurs. Du coup, la ville sera mise sous cloche, explique son maire Nicolas D'Aragon.
On a par exemple démonté les plaques en fonte qui sont situées auprès de 300 arbres, ce qui représente des tonnes et des tonnes de matériel à transporter. On est d'ailleurs aussi en train de démonter la plupart des chantiers, qu'ils soient privés ou publics, pour éviter que les panneaux servent de projectiles. Quel choix a-t-on ? Attendre samedi et avoir une manifestation de 10 000 personnes, dont 10% de casseurs, ça veut dire 1 000 casseurs, et se retrouver dans une situation dramatique. J'ai des collègues à moi, à Saint-Etienne, à Bourges, qui ont déjà vécu ça. Ou prendre des mesures préventives, et je dois mettre en sécurité mes concitoyens, puis les biens qui sont malheureusement très exposés dans une ville qui n'est pas préparée à recevoir ce genre d'événement.
Valence où Emmanuel Macron s'était rendu la semaine dernière, le président scarifié par ses 20 mois d'exercice du pouvoir, c'est le mot qu'il utilise dans un entretien accordé à plusieurs journaux ce matin. Il promet aussi de surveiller ces petites phrases qui ont nourri, dit-il, un procès en humiliation.
Il est 8h05, elle est les trains sont repartis, gare Montparnasse à Paris.
Retour à la normale après une nouvelle journée chaotique. C'est la 4e panne depuis 1 an et demi à Montparnasse. Et que dire de la soirée des passagers du Paris-Lille de 22h15 hier soir, 7h pour arriver à destination à cause d'un problème sur le système de freinage du train. Ça a été long, très long, raconte Cyprien à Guillaume Périlloux.
On a eu ni eau ni nourriture pendant tout le long. Il y avait des femmes enceintes notamment, il y a eu des malaises. On a appelé un médecin à un moment donné au micro. Tout le monde s'est dépêché en fait de rentrer chez lui, à appeler des taxis parce qu'il n'y avait rien qui était prévu. Les pannes peuvent arriver, mais que rien n'est organisé derrière et que c'est un peu du grand n'importe quoi entre guillemets. Tout le monde est un peu dépassé, y compris les contrôleurs, y compris le chauffeur. C'est même lui qui a été faire la réparation. Quand au bout de 6 heures, on nous dit que gentiment ils vont nous offrir une restauration à l'arrivée, alors que ça fait 6 heures qu'on meurt de soif. Et qui vont gentiment nous rembourser notre billet de train. On a un peu l'impression d'être pris pour des imbéciles.
Quand l'effet MeToo se mesure dans les commissariats, des plaintes pour viol et des agressions sexuelles ont beaucoup augmenté. L'an dernier, plus 17 et plus 20%, indique le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur. Mais on estime toujours qu'une victime de violence sexuelle sur 8 seulement porte plainte. Ce qu'a fait Emily Spanton, touriste canadienne, après son passage nocturne au Quai des Orfèvres en 2014. Et elle a gagné aux assises hier. Les deux policiers qu'elle accuse de viol ont été condamnés à 7 ans de prison, incarcérés dans la foulée. Ils ont toujours soutenu qu'elle était consentante. Ils ont sans cesse essayé de la discréditer, selon son avocat Mario Stasi.
On a voulu polluer ce débat en empiétant et en enquêtant sur la vie privée d'une femme sans se demander si ce soir-là elle était ou non consentante. Et la cour a répondu. On peut avoir embrassé un homme à 8 heures et se faire violer par cet homme à 23 heures si on n'a pas donné son consentement. La motivation de cette condamnation vient mettre à bas la thèse selon laquelle ce serait parole contre parole, cette motivation qui se fonde sur des éléments objectifs. Et c'est un jugement justement motivé qui aboutit à la condamnation de ces deux hommes.
Alors les deux policiers vont faire appel, leurs avocats vont demander leur remise en liberté, eux qui dénoncent l'influence du président du tribunal sur les jurés. Maître Anne-Laure Compoint défend l'un des deux hommes.
C'est pas une déception, c'est une erreur judiciaire. On va faire appel et on redébattra de ce dossier dans un climat beaucoup plus serein, je l'espère beaucoup plus honnête. Et on verra ce qui se passera par la suite. Je ne sais pas ce qui a fait basculer les jurés, en revanche je sais ce qu'est une justice partiale. Moi, j'ai pas entendu une motivation des jurés. J'ai entendu, ce qui n'a été que le positionnement du président pendant ces 3 semaines d'audience. Et tout cela sera naturellement réexaminé et sans parti pris cette fois-ci, je l'espère.
Parole d'avocat après le verdict avec l'Aurélie Carry. Voilà qui n'est pas ragoûtant. À l'heure du petit déjeuner, 800 kilos de viande polonaise avariée ont été retrouvés en France dans 9 entreprises. C'est le ministère de l'Agriculture qui nous donne cette information ce matin. Les Français achètent moins de voitures neuves et ça fait 5 mois que ça dure. Les immatriculations baissent de plus d'1% en janvier, de 3% pour les Renault et les Dacia. En décembre, le marché avait déjà dévissé de 14%. Imperturbable Juan Guaido au Venezuela. Il creuse son sillon contre Nicolas Maduro. Le président autoproclamé et reconnu par une partie de la communauté internationale a présenté son plan pour sortir le pays de la crise hier, pendant que Diosdado Cabello, numéro 2 du régime, est main de faire de Maduro donner son show hebdomadaire à la télévision. Dans le public, notre envoyé spécial Olivier Poujade.
Loyauté toujours, trahison jamais. Les spectateurs connaissent par cœur la formule de cette émission à la gloire du commandant Hugo Chavez. Dans la salle de ce vieux théâtre du cercle militaire de Caracas, des soldats, des jeunes étudiants bolivariens savourent l'ironie glaçante osée par Diosdado Cabello.
Les seuls responsables de la sécurité de Guaido, ce sont les gens de l'ambassade américaine.
Hier encore, l'opposant Juan Guaido se disait menacé par la sécurité intérieure vénézuélienne dont Diosdado Cabello a toujours été proche. Il ne change jamais de cible, sur scène comme dans sa loge où il tombe le masque.
Nous prenons très au sérieux la menace d'invasion des États-Unis. Ils conduisent notre peuple vers une guerre. Nous n'allons pas renoncer. Nicolas Maduro ne renoncera pas. Il a été élu par un peuple et nous résisterons. Ils verront jusqu'où ça nous mènera. Ce qu'ils veulent, c'est orchestrer une invasion contre le Venezuela. Ils doivent savoir qu'en cas de guerre, c'est eux qui seront en danger.
Hugo Chavez, Simon Bolivar, pour Diosdado Cabello, le numéro 2 du pouvoir vénézuélien, la crise actuelle n'est qu'une répétition de la longue histoire de son pays. Caracas, Laurent Maquetti, Olivier Poujade, France Inter.
Quant aux deux journalistes français de l'émission Quotidien arrêtés mardi, ils ont été relâchés et expulsés. Leur relation fait trembler la finance internationale, les États-Unis et la Chine, en pleine négociation à Washington. Et ils avancent. Ce matin, selon Pékin, la Chine accepte d'importer davantage de biens américains et de coopérer sur les questions de propriété intellectuelle. D'énormes progrès, selon Donald Trump.
Il est 8h10, 4 millions de mal logés en France.
C'est la la litanie annuelle de la Fondation Abbé Pierre, litanie tant la situation ne s'améliore pas pour ceux qui n'ont pas de logement ou des appartements surpeuplés, insalubres. La Fondation alerte notamment sur les difficultés des anciens détenus, comme cette femme de 58 ans, sortie de prison il y a un an. Elle est hébergée à Paris par l'association Aurore. Elle témoigne au micro de Léa Gage.
Christelle a passé 7 ans dans une petite cellule de 10 mètres carrés. Aujourd'hui, elle vit dans un studio de 23 mètres carrés, un logement provisoire prêté par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale du Soleillet.
Si il n'y avait pas le Soleillet, je fais une bêtise et je retourne en prison. Parce que là, je sais que j'aurai un toit. Dormir dans la rue, non. Aller à l'hôtel, non. Pourquoi il y a beaucoup de récidives d'après vous ? Rien n'est prévu pour les gens qui sortent de prison.
Pour Christelle, l'association est un vrai refuge. Elle fait partie des 16% de personnes en hébergement provisoire à leur sortie de prison. Elle a pu trouver une formation et le Graal, ce serait un emploi pour accéder plus vite au logement social qu'elle attend depuis un an.
Quand on sort de prison, on n'a pas de ressources. Personne ne peut se porter garant pour nous. Donc, pas de garant, pas de logement. Et pour avoir un logement, comme tout le monde, même si on sort de prison, il faut un CDI. Sans CDI, vous n'avez rien. Si on n'est pas aidé, si on n'est pas entouré, on n'y arrivera.
Une fois surmontés tous ces obstacles, Christelle n'a qu'une hâte.
C'est d'avoir mon logement. Enfin dire, je suis chez moi. Je vais pouvoir faire ce que je veux, acheter un grand lit. J'en ai marre des petits lits. Puis après, bah, avoir le plaisir d'acheter des meubles. Une seconde vie, on va dire, comme monsieur et madame tout le monde. Et ça, je l'attends avec impatience.
Mais avant d'acheter un grand lit, Christelle va devoir s'armer de patience, entre 3 et 10 ans en moyenne, pour un HLM à Paris.
Du nouveau pour les auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les enfants handicapés à l'école. Ils se verront proposer un CDD de 3 ans, renouvelable une fois, avec un CDI à la clé. C'est ce qu'ont voté les députés à l'Assemblée dans la nuit. 500 euros pour des livres, des places de concert, une activité artistique. Le pass culture, promis aux jeunes de 18 ans par Emmanuel Macron, entre aujourd'hui en phase de test, remis à 10 000 jeunes de métropole et de Guyane, Jacqueline Pétrose.
Dans un premier temps, il s'agit d'abord d'étudier le comportement des jeunes. Comment auront-ils envie d'utiliser cette somme et à quel rythme ? Préféreront-ils aller plus souvent au théâtre ou au cinéma ou regarder leurs séries préférées sur Netflix ? Les offres en ligne comme la VOD, la musique, la presse numérique et les biens culturels comme les livres ou les disques sont plafonnées à hauteur de 200 euros. Les sorties culturelles et les pratiques artistiques sont sans plafond à hauteur de 500 euros. Il s'agit d'encourager une pratique plutôt que d'inciter à la consommation. 10 000 jeunes tirés au sort vont recevoir un code personnel pour activer leur portefeuille via une application à télécharger. Les 5 départements concernés, du plus rural au plus urbain, permettront également de dresser un panorama de l'accès à la culture en France. En revanche, pas de date pour la généralisation. Un panel élargi devrait en bénéficier avant la fin de l'année. Reste également la question du financement. Le pass culture est estimé à 400 millions par an. L'État, qui devrait participer pour 20%, envisage aussi de faire appel au mécénat public comme privé.
Et un premier bilan sera tiré dans 3 mois. Voilà de quoi régaler l'Ovalie tout entière. Coup d'envoi du tournoi des 6 nations ce soir. En match d'ouverture, le 15 de France, qui ne régale pas hélas ces dernières années, reçoit le Pays de Galles au Stade de France. Les Bleus sont sur une pente descendante qui espèrent sortir du marasme à 8 mois de la Coupe du Monde au Japon. Vincent Pellegrini.
L'année 2018 s'est finie en cauchemar pour les Bleus. Une défaite humiliante à domicile face aux Fidji, une gifle de plus pour un 15 de France aux abois, dont les succès sont une denrée rare. Pour sortir de l'ornière, il ne faut pas ressasser le passé, explique le pilier Jefferson Poirot.
Si on regarde dans le rétroviseur et qu'on voit que c'est défaite, on va se mettre la tête au fond du seau. Je pense qu'il faut surtout tirer une bonne fois pour toutes les leçons du passé, prendre conscience de ce qu'on a été capable de faire de bon, et derrière avancer et avoir plus qu'un objectif, c'est... Même si on passe pour des idiots de le dire, c'est gagner ce tournoi, parce que si on n'a pas l'objectif de le gagner, on le gagnera jamais. Et derrière, d'aller à la Coupe du Monde avec des intentions aussi.
Autour du 15 de France, l'atmosphère est morose, affluence au stade et audience télé en baisse. Les Bleus ne suscitent plus d'enthousiasme. Il y a un public à reconquérir, souligne l'ailier Johan Huget.
On est conscient de l'attente de tout le monde, des supporters, des anciens qui ont porté ce maillot. On est conscient des enfants, de tout le monde. Tout le monde attend une équipe de France un peu plus souriante, un peu plus valeureuse, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place.
Ce soir, ce 15 de France, en manque de confiance et de certitude, affronte une équipe galloise qui reste sur une série de 9 victoires consécutives.
Vincent Pellegrini, chanter la vie, chanter les fleurs, chanter les rires et les pleurs, chanter le jour, chanter la nuit, chanter le soleil et la pluie. Merci Marie-Pierre Planchon. C'est la chanson d'un jour d'été des Demoiselles de Rochefort. Lui nous quitte un jour d'hiver, Michel Legrand, dont les obsèques auront lieu à 11h30 en la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Alexandre Nevsky, pendant que 22 élèves de l'école professionnelle de comédie musicale préparent Les Demoiselles de Rochefort pour la fin de l'année. Corinne Pélissier a suivi leur répétition.
Elle a répété ce morceau des dizaines de fois en vue de la prochaine audition pour le spectacle de fin d'année de l'école consacré aux Demoiselles de Rochefort. Mais après l'annonce de la disparition de Michel Legrand, c'est avec une émotion un peu particulière que Marlène Tamier entonne aujourd'hui devant la classe la célèbre chanson d'Yvonne.
Évidemment, je crois que tous autant qu'on est dans cette école, on aura très envie de lui rendre hommage très fort. On perd un grand monsieur.
Ok, là, mais justement, toutes ces petites montées de comme ça dominent les notes.
À ses côtés, son professeur de chant, Christine Flowers. Au piano, Laurent Mercou, le directeur de l'école, convaincu plus que jamais de l'importance d'enseigner les grands classiques du compositeur.
C'est des mélodies très compliquées à chanter.
Il faut avoir une certaine technique. Pour moi, c'est vraiment un compositeur pour les chanteurs. Barbara Streisand, Charles Aznavour, ça donne frisson, quoi.
L'école, en mai prochain, rendra un dernier hommage aux musiciens sur les planches d'un théâtre à Paris. 22 élèves dans la peau des principaux personnages de ces chansons. À la fin des cours hier, on ne se lassait pas de fredonner la chanson de la mère des jumelles.
Je n'ai plus 20 ans, j'ai voulu voir la vie, mon amour d'antan.
Et oui, Nicolas.
Oui, bah, ça c'est.
Vous savez quel
ça
était
c'est
le,
une conclusion
le
définitive.
Nom, vous savez quel était le nom de
non.
du fiancé
non.
détestable du
non,
fiancé
non,
de.
Non, non, non. Bah, je reverrai
de
le
Mireille.
Film
et ben bah, c'était
avec mes enfants.
Monsieur Dame, voilà. Sachez que les obsèques de
Michel
Legrand seront suivies par un hommage public au théâtre Marigny.
Merci, Florent.